Alors, le règne menaçant des hyperpuissances. Le monde a changé. On va faire un peu d'histoire, hein, très rapide, je ne suis pas un historien, bien entendu, mais le monde a changé. Le monde issu déjà de la Seconde Guerre mondiale avait posé des bases, mais il a vu, avant cela, justement, c'est ce qu'expliquait la Seconde Guerre mondiale aussi, les divisions, et même déjà un certain déclin et une chute des vieilles puissances coloniales. Au XVIe siècle, plutôt les puissances européennes. Bon. Et puis, à partir de 1947, tout le monde a vu les images de la conférence de Yalta, on va voir des empires qui vont se mettre en place. Trois empires, globalement, les USA, les États-Unis et le Canada d'un côté, l'URSS, bien entendu, et puis l'Europe. L'Europe qui continue avec sa puissance technologique, culturelle, etc. Dans le même temps, nous le savons, nous l'avons appris dans nos cours d'histoire, nous l'avons même vécu pour certains d'entre nous, les plus âgés, la guerre froide. La guerre froide avec la menace nucléaire, la montée des puissances, cet équilibre, ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. C'est très important à comprendre pour ce qu'on va dire à la fin de cette catéchèse. Sorte d'équilibre de la terreur, si tu appuies sur le bouton, j'appuie sur le bouton aussi. Donc on a vu monter les puissances nucléaires. Et ce monde a aussi bâti en même temps des organisations internationales, on en connaît, bien sûr l'ONU, l'OMS, l'OMC, enfin, etc., enfin, voilà. Et puis, ces derniers temps, des puissances ont émergé, des puissances commerciales. C'est le monde des 30 glorieuses. Hein, c'est le succès, le baby-boom, la croissance économique, technologique, et aussi le début de la décolonisation. Des puissances qui étaient jadis ou des pays qu'on appelait sous-développés, on disait ça, ou moins développés, je sais pas comment, j'oublie le terme, mes cours d'histoire géo datent de quelques années déjà, quelques décennies, mais étaient regardés un peu d'en haut, dans les cartes qu'on nous donnait, avec des couleurs, etc. Et donc, en même temps, ces puissances-là connaissent la décolonisation, s'organisent avec plus ou moins de bonheur, avec plus ou moins de réussite politique, mais aussi dans les découpages qu'on a faits, ou culturels, avec quelques violences, quelques guerres. Bon. Et les trois empires du RSS d'un côté, des USA, Canada de l'autre et de l'Europe, bon, globalement, avec l'ONU, s'organisent pour obtenir la paix dans le monde. Tranquille. La chute du mur de Berlin en 1989 va ouvrir pour les puissances européennes, en particulier lorsqu'on appelait l'Occident, une sorte, d'abord l'effondrement du bloc soviétique, bien entendu, mais une sorte d'orgueil. Ça y est, on a gagné. Hein, on a gagné. Hein, et donc, une ère de néo-impérialisme. Le terme vient du pape François, que j'ai beaucoup aimé parce qu'il est vrai. Ça y est, ces puissances allaient pouvoir coloniser le monde entier, sans entrave, d'un point de vue culturel, donc les films d'Hollywood ou d'ailleurs, etc., mais aussi d'un point de vue économique. Donc on va un peu contrôler l'économie de la planète, d'un point de vue militaire, bien entendu, d'un point de vue politique, parce qu'on va imposer un certain mode de vie politique en jugeant la vie politique des autres peuples, et surtout idéologique. On va imposer au fur et à mesure des idéologies, voilà, dans ce monde. En même temps, arrive à un moment donné la révolution Internet. Bon, dans les années 2000, un peu avant les années 2000. Avant ça, l'idéologie qui s'impose, c'est l'idéologie du libéralisme économique. Donc on va essayer de certains libéralismes sauvages, j'ai envie de dire. Celui qui gagne en économie, c'est le plus fort, qui dévore les autres. Donc mondialisation des bourses, etc. Le phénomène de la mondialisation dont on a déjà parlé. Un certain libertarisme politique, là aussi, pour faire très court, encore une fois, la loi du plus fort, s'impose dans la société, celui qui va imposer sa culture, qui va dire c'est comme ça chez nous, et celui qui va s'imposer de point de vue politique va imposer sa culture aux autres. On n'a pas le droit de penser autrement. Et puis le libertinage moral, chacun fait ce qui lui plaît. Et avec l'athéisme pratique, ce qu'on appelle chez nous la laïcité, mais enfin on va dire l'athéisme, le fait d'imposer, c'est une idéologie qui veut s'imposer dans le monde entier. Et avec un certain orgueil, certains pouvoirs idéologiques occidentaux vont croire qu'ils peuvent imposer tout cela au monde entier, sans aucun problème, y compris sur les territoires qu'ils contrôlent, comme le nôtre, par exemple, aux Antilles. On va donc, à ce moment-là, mettre en place le gender, les théories gender, le wokisme, etc., un certain mode de vie. J'ai parlé de libertarisme et de libertinage. Chacun fait ce qui lui plaît. Et puis surtout, derrière tout ça, le royaume de la consommation, hein, être un consommateur va être le sommet, et non pas un producteur, mais un consommateur de plaisir, une société de loisirs, de plaisir, d'hédonisme, etc. Pourquoi pas, tout ça n'est pas mauvais, mais quand ça devient, ça remplace Dieu, ça pose de vrais problèmes. Royaume aussi de la distraction. Alors en même temps, la révolution Internet, révolution technocratique, révolution numérique, et puis qui va créer avec finalement la perte du sens de la vie, la perte du sens de Dieu, évidemment, un monde d'addiction. Un monde aussi manipulable, puisque soudain, la mondialisation, elle devient celle aussi de la culture, de l'information, du vrai et aussi, bien entendu, du faux. Au même moment, un autre phénomène arrive, celui de l'immigration, ou de l'émigration, ça dépend de quel côté, j'ai envie de dire, de l'Atlantique ou de quel côté de la Méditerranée on se trouve, qui est un mouvement inverse que celui de la colonisation, où des peuples partaient coloniser d'autres. Là, l'immigration, c'est l'inverse, c'est les anciennes puissances colonisées, ou puissances, en tout cas les anciens pays, ou cultures colonisées, qui voient partir leurs fils et leurs filles pour vivre et trouver des conditions de vie soi-disant meilleures dans les pays occidentaux dits riches. Mais, on en arrive, évidemment, je circule à grands traits hein, sur l'histoire. Voilà que, sans que se rendent compte ceux qui sont, j'ai envie de dire, obnubilés par leur petit nombril et surtout avec l'information. Hein, vous savez, quand vous regardez une carte, une map monde, l'Europe et la France est toujours au centre, ben, quand on est français. Mais quand on est aux États-Unis et qu'on regarde une map monde, c'est l'Amérique qui est au centre, c'est pas du tout. Hein. Donc on a toujours l'impression qu'ils sont au centre du monde. Que tel pays est au centre du monde. Chacun voit midi à sa porte, si j'ose dire. Bon, c'est un peu légitime. C'est pas illégitime. Je vois pas pourquoi on mettrait, la Chine au centre du monde si on regarde une map monde en France. OK. Mais n'empêche qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on ne voit pas et qu'on commence à voir, puisqu'il y a Internet. Et c'est valable pour tout le monde. Il n'y a pas de problème. Il y a Internet. Et notamment, soudain, on voit monter en technologie, en intelligence, en richesse aussi des pays qu'on avait toujours considérés comme pauvres, et bien plus pauvres, et qui étaient censés le rester toujours avec des populations sous-développées, dans tous les sens du terme. Eh bien, que nenni, voilà qu'émergent un certain nombre de populations, et donc on a les fameux BRICS, hein, le Brésil, Russie, Inde et Chine. On va dire, il y a toujours la Russie qui est toujours là, mais elle était censée s'être effondrée après le mur de Berlin, l'URSS, etc. Pam! La voilà qui revient, surtout la Chine qui s'éveille. Alors quand on regarde aujourd'hui les pays les plus riches du monde, on a la Chine en premier, les États-Unis en deuxième, l'Union européenne reste troisième, mais on a l'Inde, le Brésil, le Japon, bien sûr, et l'Allemagne, qui étaient les rois de la consommation et de la production, mais qui sont descendus. Et puis, on trouve l'Indonésie, la Russie, le Royaume-Uni, la France en 10e position. C'était pas le cas quand on apprenait nos cours de géographie il y a quelques années. Et même, on trouve le Bangladesh ou pas loin. Enfin, quand on dit, ah, c'est des pauvres, etc. Non, ce sont des pays qui émergent. Et il y a même 23 pays qui ont décidé de rejoindre les BRIC. Alors je vous les cite, l'Algérie, l'Argentine, le Bahreïn, bon, le Bahreïn c'est normal, il y a le pétrole, le Bangladesh, je vous parlais, la Biélorussie, la Bolivie, Cuba, l'Égypte, l'Honduras, l'Indonésie, l'Iran, le Kazakhstan, le Koweït, le Nigeria, la Palestine, l'Arabie Saoudite et la Serbie. Donc vous voyez des pays que on considère que c'est des régions périphériques. Et voilà que, au contraire, elles émergent, et même les actuels pays du BRIC, donc de ce rassemblement, pèsent aujourd'hui beaucoup plus que le G7, le fameux G7 qui était les pays les plus riches du monde, donc États-Unis, Royaume-Uni, Canada, France, Allemagne, Italie, Japon. donc qui était voilà qui disposait de la majorité à 7 pays des richesses du monde, eh bien voilà, eh ben non, ça marche pas. Et l'économie a complètement changé, la façon de travailler, et on reste sur des pays qui travaillent, qui des gens qui avancent, etc. Je n'ai même pas parlé de la Corée, qui fait partie déjà des BRICS depuis longtemps. Bon, il y a une autre puissance, évidemment, c'est la puissance militaire. Alors on trouve toujours les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde en quatrième position, la France en cinquième position, mais enfin, les pays de l'Europe ne sont plus... Et loin de là, les pays les plus puissants, ni économiquement, ni militairement, et encore moins du point de vue de la démographie, du monde. Alors le monde a changé. Le monde a changé. Bon. Alors, la situation actuelle. Un nouvel ordre mondial s'installe. Avec trois empires, c'est assez récent ce que je dis là. J'écoutais encore ce matin, pendant que je vous parle, le discours de M. Trump au forum de Davos, là aussi, on va un petit peu y revenir, pour comprendre ce monde et voir comment, encore une fois, le Christ et l'enseignement, comment, en tant que chrétien, regarder ce monde, qui peut faire peur. Parce que tout est possible, non pas parce que les puissances qui nous ont, d'une certaine façon, colonisés, appris le bien, le mal, etc. Et de fait, il y a aussi certaines valeurs chrétiennes dans tout cela, il n'y a pas que ça, malheureusement, sont en recul. Donc on se demande, que va devenir le monde là, à l'heure actuelle? On sent que ça bouge. Bon. Alors, il y a la Chine, la Russie, qui reprend du poil de la bête, enfin qui n'en a jamais perdu peut-être, et les États-Unis. Et on voit... Et c'est ça qui se révèle pendant qu'on est en train de parler, un vrai étape déclin de l'Europe, mais qui existe depuis longtemps, du point de vue économique. Du point de vue longtemps, il y a des groupes, des puissances. On voit bien que les grandes sociétés européennes ont été rachetées par des groupes chinois, indiens, etc., enfin américains. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est perdu. Bon. Alors, M. Macron, le président de la République, au moment où je vous parle, parle de l'heure des prédateurs. Et je crois qu'il a raison. Hein, il dit tout haut ce que tout le monde peut constater tout bas. Nous sommes dans l'heure des prédateurs. La phrase n'a pas été... Enfin, elle a été notée, mais moi, je pense qu'il a quand même dit quelque chose, comme quand Churchill avait parlé du rideau de fer ou de choses comme ça. C'est une expression qui devrait marquer. Il dit, nous devrons, à l'heure des prédateurs, nous devons être craints. Je finis la phrase, pour ne pas devenir une antilope, hein, pour ne pas devenir une proie. Ailleurs, il a dit autre chose un petit peu avant, en 2024, il avait dit « Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester herbivores, les carnivores gagneront. » Alors, je n'ai pas très bien compris la phrase, enfin, si, on comprend ce qu'elle veut dire, mais si on décide de rester herbivores, c'est qu'on devient carnivore. Donc, de toute façon, les carnivores vont gagner, c'est ce qu'il nous dit. Hein, mais bon, donc vous voyez que il a employé des termes crus, clairs en tout cas, et c'est dans cette situation nouvelle que nous sommes actuellement. Il y a une lutte d'influence dans le monde entier, et on sort soit des griffes, soit des carnets de chèques, et on se sert. Faut voir, par exemple, comment la Chine et la Russie en Afrique... On dépouillait les puissances européennes qui avaient leurs liens, leurs filières, enfin bref, je ne vais pas qualifier avec la fameuse France-Afrique, etc. Tout ça s'est écroulé en quelques années, sous nos yeux, parce que la Chine et la Russie ont pris la place. Même chez nous, aux Antilles, l'hôpital à Dominique ou des routes à Sainte-Lucie ou l'inverse, je ne sais plus, sont construites par la Chine ou les États-Unis. Enfin, on sent qu'il y a une lutte d'influence. On sort les griffes ou le carnet de chèques. Les routes de la soie que les Chinois sont en train de bâtir, l'Ukraine évidemment, qui est quand même une guerre entre l'Europe qui voulait mettre la main sur l'Ukraine et la Russie qui n'a pas accepté, qui a réagi violemment. Le canal de Panama, des ports et des aéroports partout dans le monde qui ont été rachetés par les Chinois. On sent que les choses bougent, vous voyez, au niveau du monde. Des grandes entreprises... On a bien sûr plus près de nous le Venezuela, le Groenland qui est dans l'actualité, Taïwan, le Tibet jadis, etc. Sans parler des questions de l'IA, de l'énergie, les terres rares, les médicaments. Messieurs, dames, qui contrôle les médicaments? Demain matin, si le bateau est bloqué au Havre, comment on fait pour avoir notre petit Doliprane? Enfin, vous voyez, c'est ça la question, en fait. Et quand on a délocalisé, etc., on sent qui est le chef, qui gouverne. Sans parler de l'espace... des drones, des fonds marins, avec des richesses énormes. Donc tout ça nous fait arriver dans un monde où la loi du plus fort est, je ne sais pas qu'elle est revenue, parce que je pense qu'elle n'est jamais partie, mais la loi du plus fort est plus, s'affirme davantage, hein, est valable à tous les niveaux, géopolitique bien sûr, mais au niveau sentimental, hein, dans les couples, si jamais tu veux prendre la femme de, le mari de l'autre, etc., au niveau professionnel, au niveau économique, tu dévores le plus petit, au niveau politique, au niveau éthique, le droit recule. Le droit recule, le droit international, le droit local, etc. Ton voisin peut prendre une partie de ton terrain. Si tu ne te défends pas, tant pis pour toi. Et encore même, si tu te défends et que tu veux avoir un avocat, etc., s'il est plus fort que toi, il le prend. Donc il y a un recul, et cela entraîne une suppression aussi, une violence, donc la violence de ce qui me gêne. Je prends ce dont j'ai besoin. Je prends ce dont j'ai besoin. Ça, c'est l'aspect négatif. Il y a un aspect plus positif que j'ai appelé le « soft power ». C'est-à-dire qu'il y a, en dehors des pouvoirs géopolitiques internationaux qui ont de grands pouvoirs et qui se battent, il y a une autre réalité dans le monde, qui est le monde, par exemple, des ONG, des organisations non gouvernementales, qui peuvent faire, par exemple, de la charité, qui sont aussi au pouvoir de lobbies idéologiques, etc. Il faut faire attention, hein, c'est pas, il n'y a pas que des saints. Mais aussi des grandes entreprises, qui peuvent aussi vouloir faire du bien, mais qui peuvent aussi évidemment faire du profit, n'en parlons pas, mais aussi des grands donateurs internationaux qui là aussi hein, veulent contrôler, parfois pour des raisons idéologiques. Il y a aussi les religions, le monde de la culture, les artistes, etc. Et puis, il y a les régions, les petites régions qui n'ont pas de pouvoir, mais qui ont une identité. Ça, c'est intéressant. Alors, pour ce qui nous reste, on va parler de la paix. Comment nous chrétiens, hein, quelle est notre façon d'aborder ce monde? Est-ce qu'on doit avoir peur, comme une ravette pas jamais ni raison devant poule, hein, dit chez nous, hein, le ravet n'a jamais raison devant la poule, il est trop petit, hein, est-ce que nous devons trembler? Non, nous croyons en la paix. Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. La manière du monde, c'est la paix de fiche-moi la paix. C'est-à-dire que, attention à toi, si tu bouges, vous voyez l'équilibre de la terreur. Si tu appuies sur le bouton, j'appuie sur le bouton. Et cette paix-là, elle sera toujours fragile. Et c'est cette paix-là sur laquelle nous avons vécu jusque-là. C'est pour ça qu'elle est en train de se détruire. Il y avait un équilibre de la terreur. Il existe encore, hein, avec la bombe nucléaire, etc., ou des bombes nucléaires économiques. Enfin, des bombes économiques, pour être exact. Hein, Monsieur Trump qui veut donner des taxes douanières, ceci, tac, tac, tac. OK. Donc, il y a une paix qui est l'équilibre de la terreur. C'est une paix artificielle, c'est une paix qui se casse la figure. Il y a l'édredon moral dans lequel on nous a étouffés, donc toujours dans la paix à la manière du monde. On nous a donné du pain et des jeux, on en a parlé, hein, la mondialisation, l'endormissement, la consommation. Consommez les gens, consommez. Allez, consommez, mangez, buvez, demain vous mourrez, ne réfléchissez pas pendant ce temps. Il y en a qui domine et qui contrôle le monde, qui nous guide, et c'est toujours la loi du plus fort, supprimer ce qui est gênant, vers l'euthanasie d'un côté, l'avortement de l'autre, la suppression de ceux qui nous gênent, des anciens, des vieux, la diminution de la population mondiale qui est voulue, hein, pour pouvoir vivre à quelques centaines de millions d'habitants richement sur une planète qui va assumer tous nos besoins, plutôt que d'avoir des milliards d'êtres humains gênants. Oui, ça, ces idéologies-là profitent de notre endormissement. La paix du Christ, elle est totalement différente. Alors, voilà ce que dit le pape Jean XXIII en 63. Il dit « La paix sur la terre ne peut être établie et consolidée que dans un respect de l'ordre établi par Dieu. » En fait, pour nous chrétiens, et pas pour nous chrétiens, c'est parce que c'est la vérité, tant qu'on ne reviendra pas à l'ordre, on sera dans le désordre. C'est très simple. Les relations entre les communautés politiques doivent être réglées selon la vérité, la justice, la solidarité active et la liberté. Donc, je vais approfondir un petit peu plus tard. La paix, c'est encore Jean 23 qui parle, doit être fondée sur la confiance réciproque et non sur l'équilibre des armements. Donc voilà la paix à laquelle nous croyons. Et elle est possible, c'est pour ça que j'ai parlé des régions tout à l'heure, parce que nous voyons la paix dans ce monde comme non pas la fuite d'une identité dans de la consommation, dans une lutte de pouvoir, mais au contraire, en étant ce que je suis et en sachant respecter l'autre. C'est l'inverse de Babel. À Babel, les hommes ont voulu construire un monde unique où tout le monde devait s'unifier dans la culture. Certains ont appelé ça dernièrement la créolisation. Mais en fait, ce Babel-là est un Babel qui renie Dieu, qui renie la différence entre les hommes. Donc on veut unifier l'humanité. Bon. Or, Dieu a créé l'homme différent. Le cardinal Sarah rappelle que quand son peuple était immigré ou émigré, Dieu l'a ramené sur sa terre. Pourquoi il dit ça? Parce que chaque peuple est unique et a droit à avoir sa nation, chaque peuple a droit à avoir sa terre, sa culture. Mais rappelez-vous ce que dit Jean 23, les relations entre les différentes cultures se vivent dans la vérité, la justice, la solidarité et la liberté, par un partage, par une confiance réciproque. Mais chacun sait qui il est. Le grand mélange de tout le monde n'est pas humain, ça ne peut produire que de la violence. Chaque peuple, avec son identité, enrichit l'humanité. Voilà ce que dit Jean-Paul II à l'UNESCO en 80. Veillez par tous les moyens à votre disposition, c'est important, sur cette souveraineté fondamentale que possède chaque nation, chaque peuple, en vertu de sa propre culture. Protégez-la comme la prunelle de vos yeux pour l'avenir de la grande famille humaine. Il ne s'agit pas du tout de la crise identitaire, chacun veut affirmer son identité contre l'autre. Ce n'est pas une identité contre l'autre. C'est une identité qui me permet au contraire d'être suffisamment solide et enraciné dans ce que je suis pour pouvoir me tourner vers l'autre et apprécier ce qu'il est et recevoir ce qu'il va m'apporter. Je ne peux manger des sushis que si j'ai mangé mon tinel en morue, que je sais ce que c'est et que je peux aussi fièrement partager mon tinel en morue avec un japonais, puisque c'est parlé de sushis. Hein. Donc le fameux grand tout mélangé qu'on appelle la créolisation, ben, c'est le retour de Babel en fait. Enfin, quelqu'un a appelé ça une créolisation, je ne vais pas nommer qui, mais je crois que c'est faux. Notre créolisation à nous, les Antillais, c'est au contraire une culture unique que nous avons forgée à partir de nos racines africaines, asiatiques, européennes, amérindiennes. Nous avons formé une culture qui est unique. C'est pas un mélange de n'importe quoi en disant ben, « j'ai pas de culture, ma culture c'est le monde, je suis citoyen du monde », ça n'existe pas. Jésus lui-même était citoyen de la nation juive, avec une culture, avec un peuple. Et c'est comme ça qu'il a été universel, qu'il est universel. Parce que, comme tout homme, il naît dans sa culture. On respecte la culture de l'autre parce qu'elle m'apporte quelque chose d'unique. C'est là la paix. Le pape François, lui, a montré comment, dans Laudato Si, tout est lié. Voilà ce qu'il dit. On ne peut analyser le monde seulement en isolant quelques aspects. Parce que le livre de la nature est unique et indivisible et inclut entre autres l'environnement, la vie, la sexualité, la famille, les relations sociales, tout est lié. Voilà, vous voyez, c'est notre vision à nous, c'est une vision de ce que nous sommes nous-mêmes déjà, être moi-même, c'est déjà une façon à moi, avec mes frères et sœurs, mes voisins, une façon à moi de travailler à la paix, d'être ouvert aux autres. Sinon on oppose la mort et la vie, on oppose la foi et l'athéisme, il faudra choisir. Le communautarisme ou l'identité. Le wokisme qui veut détruire toutes les traditions, ou plutôt le fait que je vais m'inscrire dans une tradition pour être ouvert aux autres. Le libertarisme où chacun, on détruit la nature, l'être humain, etc. pour au contraire, on respecte la nature de l'être humain. L'écologie de l'homme, comme disait Benoît XVI. Ou bien je décide d'être une femme, si je suis un homme, je fais, etc. Ouais. Tout ça est lié. Et la guerre et le règne des hyperpuissances et le retour de la loi du plus fort est lié au fait que si l'homme n'est pas au centre, si l'homme tel que Dieu l'a donné dans sa nature n'est pas au centre, eh bien l'homme n'aura jamais la paix. La paix est liée à cette vision de l'être humain, à cette vision de sa culture, à cette vision de ma propre, de qui je suis, de qui est l'autre, ce respect profond. Comme dit encore une fois le pape Jean XXIII, selon la vérité, la justice, la solidarité active et la liberté. Notre secours est dans le nom du Seigneur et la terre. Yeah. Bienvenue pour la catéchèse de l'archevêque, catéchèse cette fois-ci sur le règne menaçant des hyperpuissances, toujours dans le cadre des catéchèses de cette année sur les lumières du Christ dans ce monde qui passe. On essaie de comprendre, d'avoir une analyse sur les grands problèmes de ce monde à la suite du Concile Vatican II qui nous le demande. Une analyse à travers, bien sûr, l'enseignement du Christ, l'enseignement de l'Église, pour mieux comprendre les grands problèmes de ce monde, comment l'Église l'enseigne et comment nous, chrétiens, nous pouvons les illuminer par notre foi, parce que nous avons reçu. Alors, nous sommes à la partie des questions, mais avant cela, on se confie à l'intercession de la Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.
Amen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On va passer aux questions. Première question.
Monseigneur, vous nous avez parlé de la loi du plus fort. N'est-elle pas l'occasion de certains dirigeants de ce monde politique pour faire reculer la foi des chrétiens?
Alors, ce que je n'ai peut-être pas dit assez fortement dans la catéchèse, et merci de ta question, c'est qu'il y a, une lutte entre deux façons de voir le monde. Et la nôtre est remplie d'espérance, parce que ce n'est pas les bruits des bottes et la puissance économique qui comptent pour nous. Ce qui compte, c'est encore une fois l'enracinement dans la vérité de l'être humain. Et la vérité aura toujours plus de force que les illusions et les mensonges. Même si les illusions et les mensonges vont gesticuler, il y aura de l'argent, il y aura des bruits de bottes, encore une fois, il y aura des armes. Mais puisque la vision de l'humanité, des autres peuples, des autres nations, de nous-mêmes, est celle qui est inscrite dans la vérité, à la fin, nous ne pouvons que gagner, entre guillemets, même si on ne cherche pas à gagner un pouvoir, mais à simplement être nous-mêmes, à être ce que l'homme doit être. Alors, d'une certaine façon, c'est pour ça que j'ai parlé, par exemple, de la croissance de réalités qui ne sont pas des États, parfois des entreprises dans le monde, des chefs d'entreprise, il y a des artistes, il y a évidemment la religion, des façons de voir le monde, et d'avoir un vrai pouvoir pour transmettre une vision du monde qui est plus proche de la vérité, qui est plus proche de ce qui va conduire l'homme vers le bonheur. On se rappelle la phrase de Staline, hein, qui est très célèbre, le pape, combien de divisions, hein? Le pape ne sert à rien, mais il n'a pas d'armée, combien de divisions, ben justement, et au final, c'est pas Staline qui a gagné. Parce que la vérité, dans un monde qui gesticule, qui essaie de nous faire voir à travers les médias, en disant « oui, la loi du plus fort ». C'est vrai qu'un porte-avions par-ci, une armée par-là envahit un pays, etc. Oui, c'est vrai. Mais il y a des morts, il y a des choses terribles qui se passent dans ce monde. Mais il y a aussi une autre réalité qui grandit. C'est la parabole du bon grain et de l'ivraie. Pendant que l'ivraie pousse, on a l'impression que le monde est envahi par cette vision du plus fort. Il y a le bon grain aussi qui pousse. Il y a une autre moisson. Il y a une autre moisson. Et c'est cette moisson-là dont nous sommes les serviteurs. Et c'est cette vision-là que nous devons partager avec nos jeunes, partager autour de nous, en disant « mais non, mais il y a une autre façon ». Et comme elle est vraie, elle ne peut qu'impacter. Bien sûr, les puissances du mensonge, de l'illusion, ont un pouvoir incroyable aujourd'hui avec Internet, etc. Mais nous avons le même pouvoir. À nous de l'utiliser. À nous d'y croire aussi déjà. De croire que dans le monde, il y a des hommes et des femmes nombreux dans le monde. Quand je suis allé au Vatican, j'ai rencontré, par exemple, il y a un dédicastère romain, il y en a plusieurs. Il y en a un qui est un des ministères du pape, qui s'occupe de la relation avec les États. Donc, ils rassemblent des ministres, des machins, des chefs d'État pour pouvoir essayer de faire avancer la paix dans le monde. Mais il y a un autre dicastère que le pape François appelait le dicastère pour le développement intégral. Tout est lié. Donc, ça va de l'écologie, le développement humain. Et là, eux, ils travaillent avec soit des chefs d'entreprise, soit des chefs d'associations, des responsables d'associations, des ONG, etc., à travers le monde. Et ils font énormément. Ils ont dit, mais nous, on fait énormément progresser la paix. Parfois, c'est beaucoup plus simple que de travailler avec des États. qui, eux, ont des intérêts économiques, politiques un peu superficiels, alors que lorsque quelqu'un travaille dans une ONG ou c'est un chef d'entreprise qui, par ce qu'il a réussi à faire, il a envie d'apporter la paix dans le monde, eh bien, ils vont beaucoup plus loin. Donc, c'est à nous de comprendre qu'il y a une autre réalité. Et c'était ça tout l'objet de la catéchèse.
Monseigneur, dans ce monde actuel où dominent trois hyperpuissances qui veulent se partager le monde, ne serait-il pas plus approprié de prôner l'unité des croyants que de prôner l'unité des chrétiens? Alors, tous les croyants.
Tous les croyants. Bien entendu, mais l'Église a toujours annoncé, c'est ce que chantent les anges au soir de Noël, l'Église a toujours annoncé qu'elle s'adresse aux hommes de bonne volonté. Et d'ailleurs, c'est tout à fait la catéchèse dans laquelle il faut en parler, parce que les textes des papes, j'ai cité Jean-Paul II à l'UNESCO, j'ai cité Pacem in Terris de Jean XXIII, ou Laudato Si de François, ou encore le discours au Bundestag, ou le discours à Ratisbonne de Benoît XVI, ce sont des discours qui ne s'adressent pas aux chrétiens, justement qui s'adressent à tous les croyants et à tous les hommes de bonne volonté. Hein, c'est ce qu'on chante à Noël, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre ». Alors, nous, on traduit aujourd'hui aux hommes qui l'aiment, mais en fait, c'est marqué aux hommes de bonne volonté, aux hommes qui veulent le bien. Alors, précisément, alors là, pour le coup, je crois que ce discours sur la paix, sur les relations entre les hommes, là, pour le coup, c'est pas une affaire uniquement de chrétiens, même si les chrétiens, ils s'adressent à ce que Saint Justin a appelé, on est au deuxième siècle, hein, Saint Justin, il appelle ça, on va dire, des semences du Verbe. C'est-à-dire qu'en chaque idéologie, en chaque homme, en chaque religion, il y a des semences du Christ. Quelque chose qui attend, qui a été semé par le Christ. Et qui, en même temps, qui attend la révélation du Christ. Et donc, nous, quand on a un discours sur ce genre de sujet, hein, qui est un sujet religieux en soi, mais même si on ne peut pas évacuer la religion, je recite Jean 23 qui dit « La paix sur la terre ne peut être établie et consolidée que dans le plein respect de l'ordre établi par Dieu ». Mais cet ordre établi par Dieu, il n'y a pas que les croyants, ni même les chrétiens, il n'y a pas que les chrétiens, ni même les croyants, qui ont accès à cet ordre. Chaque homme de bonne volonté qui cherche le bien, quelle que soit sa religion, son obédience, etc., si c'est quelqu'un qui veut, qui cherche le bien, il a pris un chemin, ça c'est le mystère, on aimerait que tout le monde soit chrétien, mais enfin bon, eh bien cet homme va reconnaître cet ordre établi par Dieu. Et c'était bien là le fondement profond du regard que j'avais envie de partager avec vous, c'est que les gesticulations, encore une fois, de ce monde, la fumée qu'on essaie de nous montrer, en nous montrant, regardez, les trois grandes puissances, la panique, on va en parler dans une autre catéchèse, la panique organisée en disant, wow, il faut avoir peur de la Chine, de la Russie, des États-Unis, de Trump, de tout le monde, mais en même temps, nous ici, pendant ce temps, nous, on se divise les uns les autres, celui-là pique la femme de l'autre, le mari de machin, etc. Non, la paix, elle se construit en étant ancrée dans mon identité et en étant ancrée dans la vérité de ce qu'est l'être humain et de ce qu'est l'homme. Et à ce moment-là, elle ne peut que se répandre et gagner sur les mensonges. Et gagner sur les mensonges qui, d'ailleurs, sont aussi des illusions, parce que je ne sais pas si tout ce qu'on me dit dans les médias est vrai. Donc, effectivement, pour revenir à ta remarque, ta question, oui, c'est l'unité de tous les hommes et femmes de bonne volonté. Tous ceux qui veulent le bien, hein, comme disent les anges à Noël.
Monseigneur, vous avez dit que chaque peuple doit avoir son identité, sa culture. Donc, quels doivent être donc les rôles et devoirs du chrétien face à l'immigration, justement?
Alors, c'est une question qui m'a bouleversé quand j'étais à Rome. Quand j'étais à Rome, pour le synode pour les jeunes. Donc, j'avais été élu par les évêques de France pour représenter les évêques de France à ce synode. Et on a des groupes de partage. Au synode, il y a 300-400 évêques avec le pape. Et il y a des groupes de partage par langue. Alors, il n'y a pas que des évêques, il y avait aussi des laïcs qui étaient avec nous, des experts, etc. Et à un moment donné, les évêques africains nous disent... Moi, je ne savais pas me situer, c'était très intéressant comment tu y es. J'étais à la fois évêque français, puis en même temps, soudain, lorsqu'ils se sont mis à parler, j'étais assez choqué. Ils ont dit, mais vous êtes bien gentils, là, les évêques européens, vous parlez des immigrés que vous accueillez, mais il ne faut pas oublier que les immigrés, ce sont nos fils, et que lorsque le fils du chef quitte son village avec deux, trois de ses meilleurs amis, qui sont les jeunes hommes du village, parce qu'ils ont plus envie de planter des maniocs et de s'occuper du troupeau de chèvres, pour venir porter des Nike, en risquant leur vie, pour porter des Nike en vivant à Paris ou à, je sais pas où, ou à Bobigny, c'est tout un village qui s'écroule. C'est toute une culture qui s'écroule. Et au moment où les gars disent ça, moi je dis, mais c'est exactement ce qui nous arrive à nous, Antillais. Nos jeunes s'en vont parce qu'ils réussissent, évidemment, ils s'épanouissent dans des métiers extraordinaires, machin, etc., qu'ils trouveraient pas ici, c'est sûr. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui s'écroule? C'est notre culture. Nos petits-enfants qui ne sont pas baptisés, qui ne savent même plus parler créole ou de loin comme ça, qui mangent un petit boudin parce qu'on leur a dit que c'est le pays de maman, de grand-mère et de grand-père. Et donc, on se rend compte qu'il y a ce que le pape François appelait un impérialisme. Donc l'immigration qui est effectivement... faut pas se leurrer non plus. Autant il faut accueillir bien sûr l'immigré, il faut le laisser mourir de faim. Enfin, évidemment, il faut se battre pour l'accueillir. Mais favoriser que des peuples se dépeuplent, et là, c'est là que le canal Sarah qui avait dit ça, mais aussi j'entendais mes frères et frères évêques dans ce groupe qui disaient, mais enfin, quand Dieu a son peuple était immigré en Égypte, même s'il mangeait des marmites de viande, et bon, il a été réduit à l'esclavage aussi, on l'a ramené dans sa terre, sur sa terre, parce que Dieu a donné, et c'est là une vision que Jean-Paul II a voulu. Jean-Paul II a beaucoup voyagé, on le se rappelle, et Saint Jean-Paul II a voulu à chaque peuple, rappeler à chaque peuple son identité, et pourquoi son identité? Non pas pour l'enfermer, mais pour lui dire, mais ce que tu as reçu de ta culture, de ton identité, c'est ce que tu vas offrir au monde. Le monde a besoin de toi en tant que Martiniquais. Le monde a besoin de toi en tant qu'Ivoirien. Le monde a besoin de toi en tant que Thaïlandais, ou etc. Le monde a besoin de toi de ta culture, parce que tu apportes au monde une façon d'être humain qui est unique. Et c'est là que la fameuse vision de... Alors, j'en ai pas parlé, mais le frère Roberto Pasolini, j'en ai parlé dans une autre catéchèse, qui est le nouveau prédicateur de la maison pontificale, a fait une analyse admirable de la tour de Babel, en disant que lorsque Dieu a divisé les peuples à Babel, on pense que c'est une punition, mais c'est pas une punition. C'est au contraire une grâce, une richesse pour l'humanité qui s'appelle la diversité. Mais pas une diversité qu'on va mélanger, etc. Une diversité où chacun est sur sa terre, dans sa culture, etc. Mais avec, je reprends les termes encore une fois de Jean 23, qui sont la paix véritable, c'est la vérité, la justice, la solidarité active, la liberté, c'est-à-dire c'est le fait d'être ouvert aux autres, mais en sachant qui je suis. Et c'est cela. Donc du coup, l'immigration, elle est telle qu'on la voit aujourd'hui, telle qu'elle se vit dans d'autres mondes. D'abord, c'est une catastrophe sociale et humaine. On a fait de la Méditerranée, comme disait le pape François, le plus grand tombeau. Mais en même temps, il y a une catastrophe aussi, dans la mesure où on fait des pays riches, pillent les richesses humaines. Parce que quand on dit de la ressource humaine, j'aime pas tellement le terme d'ailleurs. Pille les richesses humaines des pays plus pauvres. Alors, nous, on a de la chance parce que nos enfants sont en France et on est français. Mais quand je vais dans les îles voisines, en Dominique ou à Sainte-Lucie, leurs enfants partent aux États-Unis. Les parents ne les revoient pas parce que pour aller avoir un visa pour aller aux États-Unis, nous, on prend l'avion, bon, pas quand on veut, quand on a les moyens, mais déjà, on n'a pas besoin de visa, rien du tout. Donc, c'est vraiment des pays moins riches qui se voient piller de leur jeunesse, de leurs talents, etc. Pas des personnes. Et donc, on voit l'immigration, etc. Mais il faut faire attention aussi à une façon d'analyser, de comprendre. Après, maintenant, évidemment, accueillir celui qui est chez soi, etc. Mais c'est pas forcément une chose positive vue par les chrétiens.
Monseigneur, alors, toujours dans ce nouvel ordre mondial marqué par la loi du plus fort, la peur de l'effacement et la domination des puissances, comment notre paroisse peut-elle être un lieu où la dignité humaine reste inviolable et où le Christ demeure le seul Seigneur?
Alors, c'est là aussi, je suis passé un peu rapidement dans cette catéchèse qui est un peu vaste. Merci pour ta question. En fait, small is beautiful. Small is beautiful. Les petits aujourd'hui, c'est que je reprenais Staline avec le Vatican, le pape, combien de divisions. Finalement, le fait d'être petit, de ne pas être qu'une grosse puissance, d'être invisible, de ne pas être riche. Je visitais un pays africain que j'ai visité deux fois, avec 5-6 ans d'intervalle, je crois, entre mes deux voyages. Et en 5-6 ans, j'ai vraiment vu le développement du pays. Et un des membres de ce pays me disait, un des citoyens avec qui j'étais, me disait, mais c'est parce que ici on n'a pas de richesse, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de diamant, on n'a pas de minerai, donc on peut se développer, parce qu'on sait qui on est, notre richesse c'est nous. Alors qu'il y a d'autres pays à côté qui ont des richesses incroyables. Je vais parler du Congo, par exemple. C'est l'un des pays les plus riches au monde du point de vue des ressources naturelles. Eh bien, il y a la guerre. Il y a la guerre, il y a une difficulté pour se développer. On voit aussi ce qui se passe au Venezuela, où il y a des pétroles à n'en plus finir. Enfin, pas à n'en plus finir, j'exagère, mais l'une des plus grandes réserves mondiales. Et pourtant, on a un pays où il y a beaucoup de gens pauvres avec de l'inflation, etc. Bon. Mais ça, c'est la faute de l'être humain, bien sûr. Mais l'être humain est l'être humain. Au Venezuela, ils sont pas mieux ou pire que nous. C'est simplement que nous, aux Antilles, où les réalités les plus modestes, qui ne sont pas des États, qui n'ont pas le bouton nucléaire, qui n'ont pas des richesses énormes, mais qui peuvent avoir un impact, qui ont quand même de quoi vivre, qui ont d'abord la richesse culturelle, la richesse humaine, la richesse de la solidarité, la richesse de... Je reviens à la culture, parce que c'est important de savoir qui on est, d'être inculturé dans notre façon de vivre, qui ne rêve pas de vivre comme les autres, même si je suis très heureux, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, de manger des sushis de temps en temps, mais si je ne mange pas des produits de chez moi, jamais, ma nourriture de base. Un politicien français avait écrit un livre dont le titre est intéressant, ça s'appelait « Je ne mangerai plus jamais de cerises en hiver ». Pourquoi disait-il ça ? Il disait parce que si je mange une cerise en hiver, c'est que elle a été conservée, c'est pas naturel, elle a été conservée dans un frigo qui a consommé des tonnes de je sais pas quoi de CO2, etc. Moi j'ai fait un cancan l'autre jour avec ma maman parce que il y avait de la confiture de fraises. C'est pas elle qui s'est trompée, c'est la personne qui livre les courses. Moi je veux manger de la confiture de goyave. J'ai dit qu'est-ce que la confiture de fraises ? Quand je suis en France, je veux manger de la confiture de fraises. Mais quand je suis en Martinique, elle a traversé. Pourquoi elle a traversé le de temps en temps, mais pourquoi elle a traversé l'Atlantique, cette confiture de fraises, tout ça de fruits qu'il y a chez moi, de la goyave, il y a de l'ananas, etc. Et donc, ta question, c'est comment nous, on peut participer, mais non seulement comment on doit participer, mais on doit participer, c'est ça. C'est-à-dire qu'on veut nous faire croire que tout ça nous dépasse, mais ça ne me dépasse pas du tout. Je ne suis pas écrasé par Trump, Xi Jinping ou M. Poutine. Je suis moi-même. Et eux, ils passent au-dessus avec leurs drones et leurs satellites, ou en dessous avec leur sous-marin. Mais moi, Antillais, en Martinique, Martiniquais, ou ailleurs d'ailleurs, ce que je suis, je vis dans la solidarité, et c'est comme ça que je bâtis la paix dans le monde, et que je suis grand vainqueur, mais grand vainqueur, de toutes ces gesticulations médiatiques, etc., bon, qui peut-être aboutiront à des guerres, regardez les Ukrainiens, ou à Gaza, ou au Congo, ou ailleurs, ok, mais ce que je sais, c'est que je ne dois pas me laisser avoir, et que moi aussi, j'ai une responsabilité que l'Église nous enseigne à prendre nos responsabilités, avoir une vision dans ce monde, parce que le rêve de ceux qui je sais pas si c'est calculé, je suis pas complotiste du tout, mais est-ce que c'est calculé? En tout cas, l'aboutissement de tout ce battage, c'est que je consomme, en fait. Que je me réduise à un consommateur. Je ne suis plus une entité politique, c'est-à-dire quelqu'un qui raisonne, qui pense, qui agit dans le monde autour de moi. Je prends ma petite voiture le matin, je vais au travail, quand je sors du travail, à midi, je consomme au resto, je sors du travail, je vais au centre commercial, je consomme, j'achète, je rentre chez moi, je jouis des produits de consommation, je suis devant mon écran de télé, on m'apprend à consommer, et je repars le lendemain comme ça. Le dimanche, je fais la même chose, je vais consommer des loisirs, et peut-être consommer un petit peu de messe, voilà. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas ça la vision du monde. Notre urbanisme aux Antilles. Notre urbanisme qui fait que parfois, c'est bientôt les élections, ça tombe bien, tiens, parfois on habite dans un quartier, on ne peut même pas aller à pied voir les voisins, parce qu'il n'y a pas un trottoir. Donc c'est le tout voiture, c'est-à-dire que quand tu es dans ta voiture, il n'y a personne autour. Et là aussi c'est une façon de raisonner. Je connaissais un homme politique qui enseignait à des jeunes et qui disait, mais vous savez, engagez-vous en politique, engagez-vous dans des conseils municipaux, des choses comme ça, parce que le fait de placer un passage piéton tel endroit, ça implique une relation entre les hommes. Et tout ça, c'est le travail de la paix. Tout ça, c'est le travail pour bâtir la paix dans le monde. Alors, dans une paroisse, n'en parlons pas, surtout aux Antilles, où notre paroisse, nos paroisses, c'est pas un petit groupe de chrétiens qui se réunissent comme ça. Ça aurait été bien, d'ailleurs. Moi, ça me ferait moins de travail. C'est des chrétiens fervents qui se réunissent, qui prient, qui se connaissent, un petit groupe, une vraie famille. L'autre jour, je suis allé dans une église, dans une île des Antilles, où ils ont climatisé l'église. Donc, du coup, ils ont tout fermé. Et il y a une ambiance famille quand l'église est fermée et tout. Alors que chez nous, on a des grands vaisseaux, des grandes églises ouvertes, on a l'impression que c'est un marché. Que c'est la place du marché, tout le monde vient. Bon, parfois je le regrette parce qu'il y a des chrétiens, du moins chrétiens, il y a des relations. Bon, mais en même temps, on a un impact social réel et politique dans la vie de la cité. Il y a des personnes, etc. Et donc en permanence, on sent bien que l'Église, sa façon de vivre, sa façon de louer, sa façon de chanter, sa façon de s'occuper de ses jeunes ou de ne pas s'en occuper, sa façon de s'occuper des personnes âgées isolées, sa façon d'accompagner les familles monoparentales, les familles en difficulté ou celles qui vont bien et qui ont besoin d'accompagnement aussi d'ailleurs, ça, c'est notre façon d'être victorieux et vraiment victorieux. Notre façon aussi d'éteindre nos portables ou pas, etc. C'est notre façon d'être vraiment victorieux par rapport à ce monde qui veut nous faire peur, en fait.
Monseigneur, selon votre thème, le règne menaçant des hyperpuissances, comment contrer leur influence? En tant que chrétien, chrétienne, peut-on s'organiser pour résister à leur pouvoir? Ou est-il déjà trop tard?
En fait, ça a toujours existé. Et notre façon à nous de vaincre cela, c'est d'éteindre un moment la télé, quoi. D'éteindre nos portables et de créer d'autres relations, d'autres types de relations. C'est notre façon à nous de remporter cette victoire. Il n'y a pas de trop tard. Hein. C'est notre façon réelle de vivre dans la vérité. Je reprends aussi, encore une fois, la réflexion de Jean 23. Hein. Les relations entre les communautés politiques doivent être réglées selon la vérité. À nous de vivre dans un mode de vie qui est conforme à l'être humain. Notamment, on a une chance incroyable, nous, les catholiques de ce siècle, c'est que le pape François a écrit une encyclique qui s'appelle Laudato Si. Et quand on la lit, on se dit, mais tout le monde, les hommes de bonne volonté, c'est une question tout à l'heure, ceux qui sont pas croyants, qui sont croyants, les hommes de bonne volonté qui nous disent, mais c'est exactement ça la façon de vivre. Les circuits courts, le type de relation, s'occuper des plus pauvres, etc. Avoir une vie finalement équilibrée et à un moment donné, arrêter avec tous ces médias qui nous font rêver de je ne sais quoi dans le monde en nous faisant peur. Bien sûr, peut-être qu'il y aura la guerre, peut-être qu'il y aura des bombes, peut-être que ça va changer. Regardez quand il y a eu le Covid, quand il y a eu le bateau qui a été coincé dans le canal de Suez et que soudain, ben, toute l'économie mondiale s'arrête. Est-ce que encore une fois, notre médicament que nous prenons tous les jours va arriver? Ben, à nous de nous organiser et justement d'avoir une vie plus proche. Dans Laudato Si, tout est décrit. Et quand je lis ce texte, je me dis, mais si la Martinique vivait ça, mais en fait, on a peur de rien. Surtout nous aux Antilles, on a peur de rien. On a de quoi vivre sans aucun problème dans ce pays, sans avoir besoin des autres. Même si c'est une bonne chose, on n'est pas là pour être en autarcie. L'Église ne conçoit pas cela non plus. Tous les peuples sont faits pour avoir des échanges, évidemment. Mais de là à dépendre complètement de l'autre et d'attendre que tout vienne d'ailleurs, non. C'est pas possible. Parce que là, on ne construit pas la paix. Il y a quelque chose qui n'est pas vrai par rapport à ce que nous sommes.
Monseigneur, vous avez parlé d'un monde menaçant, avec des superpuissances, des prédateurs, un monde où on a peur. Alors, en tant que chrétien, comment vivre dans ce monde avec l'espérance?
Alors, merci pour cette question. En plus, la dernière, donc ça tombe bien. C'est pour ça que j'ai fait. Il faut réécouter la catéchèse. En réalité, l'idée c'est que justement, tout ça c'est de la, il y a du vrai hein, dans ces superpuissances, ces machins, etc. Tu écoutes Trump, tu écoutes Poutine, tu écoutes ceci, puis les journalistes qui commentent, etc. D'abord, il faut comprendre que tout cela est prévu aussi prévu. Enfin, tout ça est prophétisé dans les textes, dans l'Apocalypse. Ces nations qui machin, ces puissances qui s'élèvent, qui se font la guerre, etc. De tout cela, le Seigneur est le grand vainqueur. Et puis, la paix, elle est, c'est ce que prône l'Église, la paix, elle est assise au pied de notre porte, en fait. Elle est à portée de main. Elle est lorsqu'on fait la paix à la messe avec mon frère qui est mon voisin, et ça, c'est la vérité. Parce qu'effectivement, si on reprend cette vie où nous sommes, nous vivons, vous avez vu le film Matrix, hein, si nous avons l'impression d'être une grande matrice, et que nous sommes branchés sur des écrans en permanence, évidemment, on va avoir l'impression que le discours de M. Trump à tel endroit, ou le discours de M. Poutine, ou je sais pas qui, ou de M. Macron, enfin, j'en sais rien, Mme Van der Leyen, enfin, etc., ont un impact sur notre vie. C'est pas faux, il peut en avoir, mais le premier impact, celui de l'amour, c'est mon voisin, c'est mon conjoint, c'est mes enfants, c'est la personne isolée, c'est le pauvre. C'est le pauvre qui habite pas loin de chez moi, c'est lui qui m'apportera du bonheur et de la paix, et réciproquement. Et donc, et ça peut rayonner dans le monde entier. Il y a une autre réalité, et cette réalité, elle existe dans le monde. Elle existe dans toutes les sociétés, et c'est la vraie réalité qui sera jamais filmée par les médias, et qui est celle que Dieu nous invite à voir. Et le chrétien, celui justement, lumière du Christ dans ce monde qui passe, qui permet, qui voit cette réalité de ces gestes de solidarité, d'amour. Vous voyez, on va nous parler s'il y a un attentat demain matin en Israël par un Palestinien ou l'inverse. On va nous en parler pendant plusieurs heures à la télé. Mais tous les gestes de solidarité qu'il y a pu avoir au même endroit, jamais on en parlera. Et c'est comme ça que le chrétien vit dans l'espérance, lorsqu'il ouvre les yeux et voit la vérité de ce monde où il y a plus d'amour finalement que de haine et où il devient un ouvrier de paix, un artisan d'amour. Voilà ce que l'Église nous invite à faire dans ce monde. Notre secours est dans le nom du Seigneur, fait le ciel et la terre.